Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Et oui, c'est Culture Queer, notre happening culturel mensuel. Et on reçoit plein de monde en studio et aussi en ligne à Québec. D'abord, je vais commencer par présenter notre chroniqueur littéraire à Québec, Brian Saint-Louis. Salut, Brian.
Ton lointain personnage. Oui, bonjour.
Mon lointain personnage, ben c'est pas si loin que ça, Québec. De toute façon, je vais souvent à Québec, puis on se rencontre au gym. Faut le faire. Donald Bilodeau, salut.
Salut, salut. Bonjour.
Alors, j'ai oublié on va parler de littérature, mais toi, tu vas parler de films aujourd'hui.
Oui.
Et j'ai deux autres invités avec nous autour de la table. L'auteur Daniel French.
Oui, salut, Daniel Martin.
Salut, salut. Alors, on va parler de ta nouvelle production que j'ai avec moi ici, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et aussi, on reçoit une humoriste, Joëlle Prudhomme.
Bonjour,
salut.
Bonjour.
Hey, c'est le fun. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu d'humour à cette émission-là. On n'en a jamais.
Non. Ah, ben c'est un honneur.
Ben, on va commencer par toi.
Tiens.
OK. Oui, parce que puis ça se peut que les autres interviennent, on verra. Alors, le show Queer, tu as créé ça en 2022.
Oui.
Ça rassemble des humoristes issus des communautés de LGBTQIA+, dans un espace inclusif et bienveillant. Puis vous êtes en tournée au Québec. D'où est venue cette idée-là?
Mon Dieu, ça date, oui, c'est ça, 2022. L'idée venait d'une frustration, en fait, pour être très honnête. Je regardais qu'est-ce qui s'était fait au Québec comme dans les festivals d'humour. Puis quand j'ai vu qu'il n'y avait jamais eu de show queer, ça m'avait vraiment fâchée. Puis c'est ma coloc qui m'avait dit, ben Joël, fais-en un. Puis à l'époque, j'avais un gros syndrome de l'imposteur parce que je sais pas, ça faisait pas si longtemps que j'avais fait un coming out. J'étais une femme bi, fait que c'était plus complexe pour moi. Puis ça a vraiment été ce show-là, le fait que je trouvais ça important que ça existe, qui a mené à ce beau spectacle-là qui, trois ans plus tard, est encore plus gros, plus beau, plus inclusif. Fait que je suis bien fière de ça.
Un show queer d'humour, comment ça a été reçu par le public?
Hey, tellement bien. D'ailleurs, la première édition en 2022, c'est ça qui m'a donné envie de faire une tournée parce que la réponse était tellement le fun. Ça a comme créé un grosse bulle dans la salle, gros safe space que j'avais pas calculé. Moi, je voulais juste que le show existe. Puis finalement, la réponse m'a donné envie d'aller plus loin avec le projet. Puis la réponse est encore la même. Encore aujourd'hui, nos salles sont pleines. Presque toutes nos représentations, c'est salles pleines. Mais malgré le fait que les salles sont pleines, il y a comme un sentiment d'intimité autant avec les artistes que le public, c'est vraiment chouette.
Parlons de tes invités ou des artistes qui travaillent avec toi. Il y en a plusieurs.
Oui, on est beaucoup. C'est comme un bassin d'humoristes.
Il y a Trana Wintour.
Oui, Trana, entre autres, c'est une de nos... j'allais dire OG, mais c'est une de nos premières là, à avoir fait le show puis être avec nous sur beaucoup de spectacles. Ouais.
Alors, puis là, je vois, il y a Charlie Morin, Sam Cyr, bon, Joël Prudhomme, évidemment. C'est vraiment, vraiment toute une panoplie de personnes de différents horizons.
Oui, puis j'ai l'impression que... ben pas j'ai l'impression, c'est un spectacle qui est facile à booker comme, pour aller chercher des artistes queer parce que c'est un show qui est super le fun pour elle aussi.
Ouais.
De monter sur scène puis d'avoir déjà un pas de fait là, vers l'inclusivité puis de pouvoir parler de n'importe quoi parce que c'est pas un thème. Là. Les artistes ont carte blanche et elles parlent de ce qu'elles veulent, mais... c'est vraiment juste de savoir que le public est là pour ça, accepte déjà qui on est. Fait que c'est comme un... pour les artistes, un petit cadeau, je pense, un petit bonbon là, dans les spectacles.
Là, je vais poser une question, puis je vais d'abord et avant tout dire à tout le monde, n'oubliez pas, là, on est bienveillant ici, mais il y a quand même des questions à se poser.
Oui.
Vous êtes allé jouer dans des régions où c'est peut-être pas aussi facile.
Ouais.
Est-ce que je peux nommer peut-être, vous êtes allé au Saguenay?
On est allé au Saguenay, en Abitibi. Moi, j'avais cette petite crainte-là que si on s'éloigne, qu'on soit buté là, à certaines personnes qui ne seraient pas d'accord. Mais à l'inverse, ça fait que je pense que certaines régions qui n'ont pas accès à des safe spaces queer autant qu'ici à Montréal ou autant qu'en région, près de Montréal, je veux dire. Ce qui fait que la réponse est encore, je dirais, meilleure. Nos spectacles les plus fou, c'était à Rimouski, c'était en Abitibi, c'était justement au Saguenay, c'était incroyable. Fait que je pense que les gens ont besoin de d'endroits pour se retrouver comme ça, puis rire, parce que ça reste un show d'humour, on parle de plein d'affaires. Fait que non, la réponse était étonnamment meilleure qu'à Montréal, c'était vraiment le fun.
Bon, souvent, ce qu'on va nous dire, on peut plus rien dire, ils n'ont pas le sens d'humour. Là, je pose la question à tout le monde, est-ce qu'on a le sens d'humour, nous autres, les personnes de la diversité? Est-ce qu'on est drôle? Est-ce qu'on peut... on rit dessus, nous autres?
Ben, moi, je suis vraiment bon public, et pourtant, je suis très queer. Fait que je pense qu'au contraire, les publics les plus chaleureux, c'est des gens queer. On rit fort. La seule affaire, c'est qu'on rit avec des numéros qui ne viennent pas heurter notre identité. C'est un peu ça qu'on offre avec le show. C'est, hey, venez rire, puis vous n'aurez pas les fesses serrées. Vous allez être relax. On va pas vous confronter dans quoi que ce soit. Fait que non, au contraire, les gens sont vraiment généreux.
Il y a les drag queens qui ont beaucoup aidé aussi.
Absolument.
Ça a énormément contribué.
Et les drag kings.
Et les drag kings aussi.
Oui, ouais. Les drag kings qui se moquent beaucoup du patriarcat. C'est vraiment drôle.
Tout le burlesque aussi, oui. Ouais.
Est-ce que toi, de ton côté, Brian, est-ce qu'on est drôle, les personnes queer?
Certaines personnes, oui, certaines moins. C'est une question de talent aussi, mais on peut rire de tout, là. Donc, c'est de savoir bien le faire, voilà.
Ouais.
Daniel, toi qui écris, tu fais beaucoup d'humour dans ton écriture. Oh, puis tu écris très queer aussi.
Oui, oui, puis attention à mon prochain roman qui va être top comique.
Ah, oui!
J'en parlerai tantôt.
Ben oui, tout à fait, tout à fait. Ben moi, je peux te dire que je fais de l'humour de temps en temps. Je suis monté sur scène où je me suis... En fait, ce qui est le fun, c'est de l'autodérision. Je me suis moqué du fait que j'étais vieux puis que je pognais plus.
Et...
OK. Ouais. Disons que après ça, j'avais le goût de pleurer, mais...
Oui, c'est un métier, hein? Faut faire nos classes.
Alors, on va pouvoir te voir bientôt où, quand, comment?
Mon Dieu, mais là, la tournée, le plus simple, c'est d'aller suivre nos réseaux sociaux parce qu'on rajoute des spectacles de semaine en semaine.
Donc, le show queer sur tous les réseaux sociaux.
Oui, absolument. Le show queer, ça peut aussi être Joël Prudhomme, mais le plus simple, c'est vraiment le show queer. Puis là, prochainement, c'est Sherbrooke, Chelsea. On retourne dans le coin du Saguenay, mais plus loin, on s'en va à Jonquière, Baie-Comeau aussi en juin. Puis en Abitibi cet été, ça ressemble pas mal à ça.
Ben, on a hâte d'aller voir ça. Tu restes avec nous, on continue.
Oui, merci.
Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Ah, il y a de l'ambiance dans le studio, ça rit depuis tantôt, ça fait du bien. Ce segment d'émission, ça nous fait du bien. Et je vous dis, c'est le dernier de l'année parce que, on ne l'a pas annoncé, mais l'émission, on est amputé d'un mois cette année pour des raisons qui affligent beaucoup de médias, dont le nôtre. Alors, on va amputer d'un mois, mais on revient en septembre. Donc, c'est notre dernier parce qu'au mois de mai, on va beaucoup donner d'espace aux résultats politiques. Mais là, on va laisser la politique de côté parce que c'est pas toujours très drôle. Hein. Ben, ça dépend. OK, on va s'en tenir. J'en ai une qui rit. On parlait de films.
De films. J'en ai deux à vous proposer.
Est-ce qu'ils sont drôles?
Non. Le premier, là, je vous le dis, vous allez me trouver quétaine, là. Après la fin du film, j'ai pleuré pendant une heure de temps. J'étais inconsolable. C'est un genre de love story version gay.
Ah.
Alors, ça s'appelle Divulgacheur. En version originale, c'est Spoiler Alert. C'est sur Illico Plus, les deux films en passant.
Okay.
C'est une comédie dramatique romantique réalisée en 2022 par Michael Showalter. Il s'agit de l'adaptation des mémoires du journaliste Michael Osiello. C'est une histoire vraie. Mm. Un récit des 11 mois passés entre le moment où son compagnon Kit Cohen s'est vu diagnostiquer un cancer en phase terminale et le décès de ce dernier. Les deux acteurs qui incarnent les protagonistes sont réellement issus de la communauté LGBTQ. Il s'agit de Jim Parsons, dans le rôle de Michael Osiello, le journaliste. Parsons, qui fut le gagnant de plusieurs Emmy Awards pour la série The Big Bang Theory.
Mm-hmm.
Et le franchement très beau, je me permets de le dire, Ben Aldridge.
Ah, il est très beau, mais quand il... Bon, parce que là, je...
Tu l'as vu, le
spoiler
film?
Spoiler alert, ouais. Ben oui, je l'ai vu. Bon. Du temps que j'étais abonné à un certain réseau qui s'appelle Netflix, qui est américain.
Il est encore sur Netflix, mais c'est sur Illico.
Mais là, je me suis débarrassé de Netflix, puis vous savez ça. Pourquoi. Oui, il était très beau, puis c'est étonnant comment est-ce qu'on le transforme à la fin.
Ah, c'est extraordinaire.
Et effectivement, moi aussi, j'ai passé la mop chez nous pour avancer mes larmes.
Oui, oui. Et il y a Sally Field, hein, qui fait la mère de Kit. Sally Field, qui est une actrice très, une bonne alliée pour la communauté LGBTQ. Donc, l'histoire racontée par Michael détaille leur relation de 14 ans menant à la mort de Kit En 2001, Michael, journaliste pour TV Guide, est invité dans une boîte de nuit gay par son meilleur ami à Manhattan. Là-bas, il rencontre Kit, un photographe, et les deux hommes créent un lien instantanément, malgré d'énormes différences entre les deux, sur le plan physique, les goûts, etc. D'autant que Michael est extrêmement insécure, étant auparavant une personne en surpoids. Alors, il n'ose même pas retirer son T-shirt en face de son amoureux, donc c'est vous dire.
Ah, ça vient chercher. J'avoue que cette scène-là vient chercher, parce qu'on a tous un peu ce petit saboteur en nous qui nous dit « Ah, t'es pas assez beau, t'es pas assez fin. » Puis garde ton chandail, ça va être mieux.
Ouais.
Je dis ça c'est moi à moi qui dis ça.
et de moi à moi aussi. Mais ils reconnaissent tous les deux leur crainte d'être dans une relation à long terme, puisqu'aucun d'eux n'en avait eu auparavant. Alors, ils décident de continuer à se fréquenter, et lors de leur premier Noël ensemble, Kit donne à Michael son propre placard dans son appartement, invitant donc son copain à vivre avec lui. 13 ans plus tard, après de nombreuses années de bonheur, le couple bat de l'aile. Mm-hmm. Michael est très préoccupé par sa société et soupçonne Kit d'avoir une liaison avec son collègue Sébastien, ce qui est effectivement le cas. Alors, ils se mettent alors à suivre une thérapie de couple, mais décident finalement de se séparer. Parallèlement à tout ça, Kit commence à montrer des signes de mauvaise santé et est rapidement diagnostiqué d'une forme rare de cancer neuro-endocrinien de stade 4. Le combat contre la maladie de Kit va resserrer les liens entre Michael et Kit. Alors, comme je vous disais tantôt, c'est un film qui rappelle un peu Love Story. C'est un film qui rappelle un peu Tendre Passion, Terms of Endearment, avec Shirley MacLaine. D'ailleurs, il est fait référence à ce film-là dans le film Divulgacheur. C'est un film qui est vraiment très, très touchant. L'autre film est aussi sur Illico. Ça s'appelle Chum, au pluriel, en anglais Bro.
Oui, je l'ai vu aussi.
Tu l'as vu, ça aussi. Ouais. Alors, une autre comédie romantique réalisée aussi en 2022 par Nicholas Stoller. Ça a été présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto en 2022. Alors, le synopsis est le suivant. Bobby est un animateur de podcast et militant pour les droits des gays qui ne croit plus en l'amour depuis belle lurette. Névrosé, il est heureux d'aller à des rendez-vous Tinder et se contente de ne pas avoir de relations sérieuses. Tout change lorsqu'il rencontre Aaron, un notaire tout aussi détaché. Attirés l'un vers l'autre à plusieurs reprises, les deux hommes commencent à montrer leur côté vulnérable alors que leur attirance se transforme en quelque chose qui ressemble à un engagement. Ici aussi, les deux acteurs sont issus de la communauté LGBTQ, Billy Eichner qui fait Bobby et Luke McFarlane qui fait Aaron. Et oui, c'est ça. Donc, Chum se présente comme la première comédie romantique gay produite par un grand studio américain. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ainsi que ça se présente. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ça. On passe vraiment du bon temps avec cette production qui se déroule tant à New York que dans la célèbre petite ville de Provincetown, qui n'est pas déjà allé faire un tour là.
Mais on n'y va plus maintenant.
Mais on n'y va plus. C'est fini.
C'est fini, ça.
Pour au moins 4 ans et probablement plus.
Ouais. Ben, tu me permets, je vais faire un commentaire sur ce film. Moi, je suis d'accord, c'était vraiment le fun, mais j'ai l'impression qu'on me faisait un grand cinéma, un grand studio qui faisait, là, je vais cocher toutes les cases. OK, là, j'ai ma drag queen, j'ai ma personne racisée. Et à la longue, je n'avais pas l'impression que c'était... Excuse-moi, je ne cherche pas le mot français. C'était pas genuine.
Ben, écoute, j'ai lu une critique qui dit que le film s'enlise peu à peu dans des clichés.
Oui.
Qui dénonce avec... Tu sais, que le film voulait dénoncer lui-même au début, mais il s'enlise lui-même dans ça. Et c'est vrai qu'il y a la personne trans, la drague, le bi.
Oui.
Il y a vraiment, tout est là. C'est vraiment, on a voulu mettre, c'est peut-être même un peu trop, mais quand même, ça passe.
Ben moi, je voyais ça comme du faire-valoir, mais bon, cela dit, c'était ma réaction. Je suis toujours très dur quand je regarde des films, surtout produits par des grosses boîtes hollywoodiennes.
C'est sûr que c'est pas nécessairement un film à Oscar non plus, pas du tout.
Mais de toute façon, j'ai eu le même problème, and Just Like That, la suite. Et là tu avais exactement la même chose. On voulait cocher toutes les cases dans cette série-là. Et moi, la longue, ça m'a déplu parce que, je ne sais pas vous autres, là, mais je trouve qu'à un moment donné, là, si vous voulez parler de nous...
Allez-y plus en profondeur.
Quand la courbe narrative du personnage se restreint à « c'est une personne trans », tu fais « non, il y a plus de nuances là, dans la vie ».
Oui, il y a plus de nuances que ça dans la vie,
je suis d'accord avec toi,
On continue.
Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Et on va parler littérature. On a beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de monde qui va en parler. On va commencer par Daniel French. Daniel French est auteur. Il a publié, en fait, c'est son sixième livre. Mm-hmm. Moi, j'ai beaucoup aimé toute ta première série qui est allée en théâtre, Daniel. Hein? Ouais. On se rappelle L'eau des nuages, Entre le rose et le noir, Melting Blue, Delicious. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce titre cette fois-ci, Suicidez-moi. Ouais, j'avoue que quand j'ai obtenu ma copie, je dis, oh boy, je vais-tu me jeter en bas d'un pont après avoir vu ça?
Tu l'as pas fait, c'est déjà bon?
C'est bon. Non, je te taquine, Daniel. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce surtout que c'est de la poésie, c'est la première fois que tu en publies aussi.
Oui, mais c'est pas la première fois que j'en écris. J'ai toujours écrit de la poésie. Sauf que pour moi, c'est facile, fait que je voyais pas l'intérêt d'en publier.
Ah.
Donc là, je me suis décidé l'année dernière, pendant mon congé de maladie, parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu un congé de maladie pour dépression et anxiété. Donc j'ai eu 3 mois de congé. J'en ai profité pour mettre ce que je ressentais sur papier. Puis c'était pas une belle période de ma vie, c'était un côté très sombre. Fait que tout ce qui me levait le cœur, tout ce qui m'écœurait dans la société, je l'ai mis en mots.
Oui. Là, je faisais des blagues. Non, effectivement, je n'avais pas l'idée d'aller me jeter en bas d'un pont, là, c'était pas ça. Mais j'avoue que ça m'a touché parce mm-hmm. que c'est des choses que beaucoup de personnes de nos communautés vivent. Mm-hmm. Et toi, tu as eu je sais pas ce qu'on va dire, le privilège, mais la bonne idée où tu as été bien guidé, tu es allé chercher de l'aide. Beaucoup
ouais.
de nos personnes de nos communautés ne vont pas chercher d'aide.
Oui, en effet. Ben, on se pense fort, malgré le fait qu'on ne voit pas bien. On se pense fort aux autres. Non, ça va passer, je vais aller bien. À un moment donné, tu réalises que non, tu vas pas bien. Moi, c'était rendu que je laisse mon balcon, j'habite au 6e étage, puis la question que je me suis posée, qu'il y a eu un gros déclic, c'est que j'ai regardé en bas de mon balcon, puis je me suis demandé qu'est-ce qu'allait faire le plus mal, ce que je vis présentement ou tomber en bas du balcon.
On est content que t'es pas tombé en bas du balcon.
Non, puis c'était drôle, c'était le jour de ma fête en plus. Fait que moi, le jour de ma fête, je suis toujours un peu plus down qu'habituellement. Fait que j'ai décidé de sortir, d'aller me promener, m'asseoir dans un bas de parc. Fait que ça, c'était... Là, j'ai encore de la difficulté à en parler parce que je me souviens comment c'était
très difficile. Je vais aller,
difficile.
Oui, je vais te laisser le temps de te recomposer. Je vais aller voir Brian. Excuse-moi, Brian, on va aller plus vite. On va revenir à Daniel. Toi, tu voulais nous parler de 2 titres aujourd'hui. Tu as lu... Ben, moi aussi, j'ai lu « Fucked Up Story » de Nicolas Giguère.
C'est spécial, hein?
Oui. Écoute, Nicolas, pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Giguère, c'est tout un auteur et il fait des livres assez particuliers. Moi, je me rappelle de petites annonces où je rigolais, puis à la fin, je rigolais plus.
Bien, c'est ça, ce petit nouveau recueil de poésie-là, feu d'artifice, explosion, je ne sais pas trop. Ça s'ouvre sur une vengeance littéraire, il nous dit au début, jance des petits amis du milieu littéraire, il y en a qui devraient prendre leur gaz égal dans la vie. Et là, c'est une longue suite de plein de choses qui mélangent. Il me présente plein de pensées, littérature, scénario, projet de roman. Il y a de la culture populaire, il y a des références, on nomme des noms, on parle de téléromans, de chansons, de couples, de sexualité, de cuisine, plein de choses. On est quelque part entre l'humour et une espèce de règlement de compte avec la société dans ce livre-là. Un livre qu'on lit beaucoup pour l'énergie. Je trouvais ça très heavy metal, par exemple, mais je trouvais qu'on lisait plus ça pour l'énergie que pour les images poétiques. C'était déstabilisant, très in your face, là, mais on sent que c'est son intention, c'est son style d'écriture. Moi, je trouvais qu'il manquait peut-être un petit peu de lien. Honnêtement, j'aurais aimé ça qu'il me lise ce livre-là pour comprendre un peu son rythme poétique. Parce que je l'ai lu, j'ai été frappé par tout ce qu'il me disait, mais...
C'était fucked up, comme diraient les jeunes. Hein?
Ben, c'est ça. Je cherchais sa direction. Ses images étaient beaucoup là. C'est très fort comme écriture. Mais j'étais un peu assommé par tout ce court livre-là. Faudra le relire, Fucked Up, de Nicolas Giguère.
En fait, habituellement, Nicolas nous fait des choses assez surprenantes, mais je ne trouvais pas le fil conducteur. J'espère qu'il ne va pas se fâcher contre moi en écoutant ça aujourd'hui, mais je ne trouvais pas autant le fil conducteur que je le trouvais dans ses autres, parce qu'il a écrit des choses. Et le face, là, que c'est quand même assez fort, ça. Merci. Là.
Oui. Ben, j'étais un petit peu dans le même mot que toi, donc on sera deux à avoir peut-être manqué le fil qui nous menait dans toutes ces pensées-là. très heavy metal, comme je disais, là, comme écriture.
Les étoiles comme des petits poissons qui... Excuse-moi, juste avant, on va dire que Fucked Up Story de Nicolas Giguère, c'est quelle maison d'édition déjà? C'est AMAC, je pense.
C'est Hurlante Poésie.
Hurlante Poésie. Mmh. Allons voir Les étoiles comme des petits poissons. C'est un roman que j'ai lu moi aussi, d'une écrivaine trans Manitoba qui vient de paraître chez AMAC.
Ben oui, on vient de parler tantôt, pour mettre un personnage trans, là, vraiment, on est vraiment dans quelqu'un de trans. Cassie Plett, qui est une écrivaine manitobaine, mm-hmm. trans elle-même, connaît vraiment bien le sujet. Un livre qui s'ouvre d'ailleurs aussi, on parle de personnes trans, sur des notes des traducteurs qui ont dit qu'ils ont fait une première traduction de ce livre-là. Puis ensuite, ils ont demandé à quelqu'un qui s'appelle Amélia Fizette, qui est une personne trans, de relire le manuscrit qu'ils ont fait de ce livre-là. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié plein de micro-agressions, qu'il y avait plein de choses qu'ils n'avaient pas compris. Ils ont dû reprendre le travail, vraiment, de la traduction pour mieux être en accord avec ce qui se passe avec les personnes trans. Donc, une belle note qui nous met en garde au début. Donc, on va lire ce livre-là avec beaucoup plus d'attention. L'histoire, c'est que Wendy, le personnage trans de ce livre-là, est au téléphone, apprend que son grand-père, qui est un Mennonite des prairies, aurait été comme elle. On lui dit ça au téléphone, une ancienne amie de sa grand-mère. Et là, elle va se demander, mais comme moi, qu'est-ce que ça veut dire? Gay, est-ce qu'il était trans? Blablabla. Donc, c'est un peu la quête qu'on va chercher de comprendre tout le long du roman. Qu'est-ce qu'il était son grand-père, finalement? Mais moi, j'ai presque le goût de vous dire que cette histoire-là, complètement accessoire, parce que finalement... On en parle, mais ce n'est pas le cœur de ce roman-là, ce n'est pas ce qui va rendre ça intéressant, c'est la vie de cette femme-là. Il y a énormément de côtés sombres, on voit les micro-agressions à cœur de jour, les difficultés sociales, trouver des emplois, se promener dans la rue, sortir, avoir des relations avec des gens, des gars, des filles, souvent des gens qui ont des vies difficiles, le travail du sexe est très présent, les drogues, trouver des hormones de contrebande qui viennent des États-Unis parce qu'on n'a pas accès à ça au Canada. Il y a énormément de sujets hyper lourds dans ce livre-là, mais on est vraiment... C'est bien décrit, c'est bien rendu, mais beaucoup de moments de lumière aussi, de la solidarité entre ces personnages-là. Ils ont une famille de personnes queer autour d'eux qui les supportent. Ils se tiennent beaucoup entre eux autres, même si c'est difficile. Il y a de la solidarité, il y a des études qui se font. Donc, un roman assez épais, vraiment sur une réalité trans. C'est rare qu'on voit ça. C'est très étoffé, très intéressant. Ça avait gagné d'ailleurs le prix du meilleur premier roman au Canada quand c'était sorti en anglais. Et la traduction vient de paraître chez AMAC en français. Si donc, très intéressant.
Je peux poser une question. Oui, je me demande, c'est-tu de la fiction? C'est une autobiographie, autofiction?
J'ai cru comprendre que c'était juste de la fiction, mais l'auteur elle-même est trans, donc probablement une réalité qu'elle connaît très bien, là, oui.
D'accord, merci.
Ben, en fait, puis je suis content que tu poses la question, j'allais la poser, mais il y a un autre point que j'ai aimé dans ce roman, c'est, moi, je trouve que ces amitiés-là, ça me parle. J'aimais, puis tu sais qu'ils s'envoient des petites affaires, puis, mais ils ont une très belle solidarité entre eux. Vraiment, ce roman me fait
bien. Ils se tiennent, ils se prennent des nouvelles entre eux. On voit l'importance que ça a, la communauté, quand on fait des choix, quand on sort du garde-robe, qu'on se retrouve avec la famille choisie, là.
Ouais.
Elle est vraiment très présente là-dedans, la famille choisie, parce que dans un milieu en plus comme les prairies, très conservatrice, elle vient d'une famille mennonite, donc le conservatisme, l'histoire, là, c'est jamais très loin.
En tout cas, j'ai aussi beaucoup aimé sa relation avec son père, avec Ben. C'est vraiment beau aussi, c'est ce qui se passe là. J'aimerais revenir à Daniel, parce que tu as quand même publié d'autres livres. Je pense que tu en as lu quelques-uns, toi aussi, Brian, des livres de Daniel French, L'eau des nuages.
Pas encore. Ça, je suis en train de me dire, mon Dieu, mais c'est ça, cette panique-là, je me rends compte. Il y en a tellement de romans à lire de nos réalités, là.
Qu'est-ce qui t'inspire en général dans la vie quand tu écris?
Ah, mon Dieu! Tout.
Ouais.
Ce que je vais vivre, ce que mes amis vont vivre. Des fois, un petit reportage aux nouvelles à la télévision, ça va me faire un déclic.
Ouais.
Tout est inspirant.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de L'eau des nuages et sa suite, Le rouge et le blanc, puis en tout cas, tu avais toute une série, mais c'était devenu une pièce de théâtre que Marc-André Cazavant avait montée.
Oui, L'eau des nuages, oui.
Ouais, c'était aussi très beau, parce que tu parles du VIH à une époque où c'était
en effet.
Pas si facile.
Puis que mon personnage qui est atteint du VIH, lui, il n'en peut plus. Fait qu'il décide de mettre fin à ses jours. Mais tu sais, j'ai mis ça romantique, là. C'est sûr que j'ai mis ça beau, parce que l'histoire, c'est pas vraiment un drame. Là.
Ouais.
C'est un drame qui fait que mes personnages vont trouver le bonheur avec ce qu'ils vivent avec la perte d'un ami.
On peut trouver tes livres où, quand, comment?
Où, quand, comment? Ouais. Mes livres sont disponibles sur le site lulu.com.
Oui.
Fait que ça, c'est un, excusez l'expression anglaise, un print on demand.
Oui.
Donc, on commande
les livres. Oui,
ouais, exactement. Ouais. Fait que, puis, c'est pas américain, c'est mondial, puis l'imprimerie est à Toronto.
Fait que alors, pas de danger, on va arrêter de dire que tout ce qui est américain n'est pas bon, mais quand même, on fait attention.
Voilà.
Prochain projet bientôt?
Oui.
Le nouveau roman, oui.
Ben, le nouveau roman qui va être prêt pour le mois de mai, donc très bientôt. C'est une satire des romans harlequins, mais à thème LGBT.
Ah, donc, dont on a vu la couverture
qui est très
belle.
Des
beaux
cow-boys.
Un
cow-boy et un étudiant.
Oui, ça ne peut pas être beau.
Ben oui, on tombe dans les critères de beauté. Ben, merci Daniel. Moi, je vais me permettre quelques petits commentaires aujourd'hui. J'ai reçu La Maison des non-dits, la biographie de RuPaul. Moi, je ne vous recommande pas la lecture de ce livre-là parce que RuPaul a vécu... En fait, moi, ce que je trouve plate là-dedans, c'est que RuPaul a eu des problèmes de consommation de drogue et tout ça. Mais on parle surtout de ce qu'il portait pendant qu'il consommait de la drogue. Là, j'exagère, mais c'est très, très, très superficiel. Puis moi, je m'excuse, mais tu sais, une autobiographie, tu sais, des fois, on s'auto-censure. Mm. Alors, par contre, je vais vous parler d'Éric Noël, Ses regards amoureux de garçon altéré. Je suis allé voir la pièce de théâtre. J'ai lu ce texte avant de l'interviewer. Le livre est disponible chez Leméac. Cette pièce de théâtre est à guichet fermé, mais je vous recommande quand même d'aller sur le site du Théâtre Prospero à Montréal et d'indiquer votre intérêt parce qu'ils vont certainement reprendre cette pièce qui est magnifiquement jouée par Gabriel Zabot. Une mise en scène absolument géniale de Philippe Cyr. Alors, je vous recommande ça. Bon, j'ai fait mon coup de gueule et mon coup de cœur. Les amis, je vais vous dire un grand merci. C'est vraiment notre dernier Culture Queer de la saison, mais on va le reprendre en septembre. Merci beaucoup de ta patience et de ta participation, Brian, puis on va compter sur toi l'an prochain.
Mais oui, je serai de retour. Lisez cet été.
Ouais, puis
je vais lire le prochain roman de Daniel.
Parfait. Oui. Donald, merci beaucoup, comme toujours.
Ce fut un plaisir pour ma troisième année.
Merci
déjà
beaucoup. Et à mes invités aujourd'hui, c'était vraiment le fun de vous recevoir. Merci d'avoir participé, d'avoir accepté.
C'est un plaisir.
C'est un petit... on est un peu fous à Culture Queer. On aime bien le happening, puis que les gens se parlent, et puis on mélange tout le monde ensemble, et puis ça donne de très beaux résultats. Alors nous, on va aller voir le show queer, ça c'est
oui.
Clair. C'est clair. Dès que vous êtes à Montréal ou dans une place où je peux aller, c'est certain. Daniel, bon succès.
Ben merci beaucoup.
Merci.